Vous écoutez Le Paradoxe du Bernard l'Ermite, un podcast produit et réalisé par Circomplex. Face aux mutations et à l'image du Bernard l'Ermite, les entreprises sont parfois amenées à modifier leur stratégie, leurs objectifs, leur environnement et leur comportement sans possibilité de retour. Dans cet épisode, nous recevons Hervé Mercier-Itier. Il témoigne de la transformation qu'il a opérée chez Swiss Life Banque Privée. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes depuis 2020 président du directoire de Swiss Life Banque Privée. Cette même année, vous avez conduit un projet de transformation pour servir sa croissance et son développement. Pourriez-vous nous dire quel a été le point de départ de ce projet ?
Oui, bien sûr. J'ai pris mes fonctions dans un moment qui était un petit peu compliqué. Vous vous souvenez sans doute que 2020, c'est l'année des confinements et du Covid. Et j'avais à prendre en main une banque dont l'histoire avait été mouvementée. Dans un groupe qui n'est pas un groupe bancaire, qui est un groupe d'assurance, et où se posaient beaucoup de questions de l'entreprise. Donc c'est une entreprise qui à la fois manifestait des choses tout à fait spectaculaires et remarquables, notamment dans sa capacité à très vite répondre à ce grand stress qu'ont été l'effondrement des marchés financiers, la paralysie complète des économies, et en même temps qui souffrait de toute une série de tensions internes dans sa relation avec son groupe d'assurance, avec son actionnaire minoritaire, avec entre ses différents départements. Voilà. Et donc on s'est dit assez vite avec mon équipe dirigeante que pouvoir sublimer un peu cette entreprise ou lui donner l'énergie qu'on peut lui insuffler à travers, bien sûr, un projet de croissance, mais aussi un sentiment d'identité plus marqué, serait quelque chose d'utile. Et c'est dans cette intention-là qu'on a commencé à travailler avec Accroche.com. Ce qui était très intéressant dans la manière dont les choses se sont faites avec Accroche.com, c'est que on a eu un questionnement à la fois très ouvert. Moi-même, je découvrais l'entreprise. Les deux autres dirigeants connaissent l'entreprise depuis très longtemps. Donc on devait mettre en même temps ensemble nos perceptions très différentes de l'entreprise. Et le travail qui a été fait avec Accroche.com était un travail à la fois très bienveillant, assez exigeant d'ailleurs, hein, puisqu'on a été souvent bousculés, et a abouti à une description de ce qui faisait les particularités de cette entreprise qui était, je crois, assez juste. Voilà, donc il est hors de question de s'inventer une identité. Les groupes humains ont besoin de se raccrocher à un certain nombre d'éléments qui les définissent par rapport à leur environnement, par rapport à leur compétition, par rapport à leurs actionnaires, par rapport à leurs clients. Et je crois qu'on a fait ce travail de façon assez efficace et juste en mettant les mots qui viennent pas forcément spontanément, qui en mettant les mots sur ce que cette entreprise qui pouvait lui répondre et bien la définir.
Quels ont été pour vous les principaux obstacles au cours de ce travail ?
Il faut arriver à résumer en quelques phrases des choses qui sont très complexes. Il faut éviter le slogan, il faut éviter la superficialité, il faut éviter que ce soit complètement déconnecté de l'entreprise. Donc trouver des mots qui sont justes, qui nous parlent et qui peuvent parler aussi à des gens qui n'ont pas fait ce processus, ce travail. Donc c'est je trouve un exercice qui est jamais simple. Hein. C'est traduire en peu de mots des réalités complexes et justes sur une entreprise. La banque privée est un très vieux métier. Hein. C'est un très vieux métier assez mal connu. En plus, ça veut rien dire banque privée. C'est complètement stupide comme nom. Ça se réfère souvent à des schémas très très ancrés. On a tout de suite en tête des noms un peu connus qui nous viennent à l'esprit, mais ça s'assimile souvent à des entreprises qui sont très anciennes, qui évoluent plutôt dans un monde aristocratique, on va dire. Alors que c'est absolument pas nous. Nous, on est une entreprise jeune, on est une entreprise qui n'est pas tournée vers la richesse aristocratique. On est très tournée vers le monde de l'entreprise. Et donc, on avait un défi, effectivement. De trouver les bons qualificatifs qui nous permettaient de dire ce qu'on voulait être, en partant aussi de ce qu'on était, tout en se raccrochant pas du tout à tout cet univers. Et moi, je prends juste un exemple, parce que je tenais beaucoup au mot de plaisir. Le mot plaisir et la banque, c'est pas spontanément corrélé, quoi. Hein, c'est même plutôt un monde où, en général, on a assez peu de plaisir parce que c'est le monde des maths et des chiffres. Voilà, c'est pas super sympa. Il y a aussi beaucoup de juridique. Mais je voulais qu'on trouve une façon de se dire que faire de la banque privée, c'est aussi des vrais moments de fun parce qu'on travaille avec des entrepreneurs qui sont enthousiasmants. Et qu'on leur donne des raisons de penser que d'abord rester en France n'est pas forcément une mauvaise idée, et qu'en plus il y a plein de choses extrêmement intéressantes à faire, et même assez passionnantes à faire. Voilà. Et on a réussi à le caser, donc je suis très content.
Le titre de ce podcast contient le terme de paradoxe. Ce paradoxe renvoie à la posture du dirigeant face au changement qui, au moment d'évoluer, peut être à la fois tout à fait convaincu de la nécessité de se transformer, mais aussi craintif de porter atteinte au modèle qui a fait la réussite de l'entreprise jusque-là. Diriez-vous que ça a été votre cas ?
Ah ben, je suis constamment dans ce dilemme. Si on peut se transformer à la vitesse où on se transforme, l'entreprise change très vite. Hein. Elle produit d'ailleurs des résultats exceptionnels cette année, j'en suis extrêmement fier. Et elle se transforme très très vite, mais elle doit le faire en étant continuellement dans le souvenir que si elle peut le faire, c'est parce qu'il a été accompli dans le passé. Donc il y a un équilibre constant à trouver entre ce qui a permis d'être là où on est, et donc d'ouvrir le potentiel et le futur, et le fait aussi que c'est parfaitement insuffisant pour réussir dans le futur. Donc cet équilibre, il est constant. On doit modifier énormément de choses et être très respectueux de ce passé. Voilà. Donc oui, c'est ce dilemme, je l'ai tous les jours dans chaque décision que je prends.
Est-ce qu'il y a néanmoins des ressorts qui vous permettent de guider vos décisions pour garder cet équilibre entre la prise de risque qui accompagne la transformation et la préservation de ce passé ?
La bonne réponse pour moi à cette question et à trouver le juste équilibre, elle est toujours dans le collectif. Donc c'est la capacité de l'entreprise à élargir le cercle de ceux qui sont autorisés à porter un jugement, un diagnostic sur l'entreprise, qui permet de dire ça c'était bien mais ça a épuisé ses effets, ça maintenant c'est désirable et voilà comment on peut y arriver. Et il est très important pour moi, en particulier après ces 2 ans et demi passés à la tête de la banque, d'élargir continuellement le cercle de ceux qui sont capables de porter un regard rafraîchissant sur ce que nous avons accompli. Le moment toujours un petit peu dangereux, en particulier pour quelqu'un comme moi qui a pris ses fonctions il n'y a pas si longtemps, c'est le moment où on commence à tellement faire partie du système qu'on finit par considérer qu'il est satisfaisant et qu'il n'a plus besoin d'évoluer. Voilà. Donc je suis assez conscient de ce risque. L'une de mes intentions aujourd'hui, c'est notamment de faire que le comité exécutif de la banque, au-delà du directoire, devienne beaucoup plus proactif et acteur du changement. Voilà. Et puis ça passera aussi par, je pense, de nouveaux arrivants dans l'entreprise pour maintenir cette petite tension nécessaire dans l'équilibre préservation du passé et invention de nouvelles pistes à défricher.
Quel est pour vous le socle qui vous permet de pérenniser le changement ?
Il y a certainement quelque chose autour de la vision. On en avait beaucoup travaillé là-dessus avec Accroche.com, parce que la vision, c'est l'endroit où collectivement on a envie d'aller. Et une bonne vision, c'est une vision qui crée les conditions de se réaliser par l'effort de tous. Voilà. Et en même temps, ça doit être très attentif à ce qui a fait l'histoire de l'entreprise, parce que l'entreprise n'ira jamais qu'à l'endroit où elle a envie d'aller. Et elle y va avec ses qualités, ses défauts, ses faiblesses, ses atouts. Voilà. Donc c'est cet équilibre à trouver entre la qualité de l'histoire du passé et cette vision, cette envie d'aller vers quelque chose de neuf, et le faire si possible dans la joie. C'est un truc qui est pas non plus complètement simple. Hein. Dans le monde de l'entreprise, on vit fréquemment dans la peur d'échouer, la peur d'être mal jugé, la peur de faire défaut, la peur qu'un projet informatique très très coûteux n'aboutisse pas. Enfin, il y a plein de raisons de stresser un peu. La peur que les marchés dévissent alors qu'on s'y attendait pas et qu'on aurait besoin qu'ils montent. Voilà. Et en même temps, il y a plein de moments de plaisir. Voilà. Et comme on a tous ce biais d'être plus sensible au moment de déplaisir qu'au moment de plaisir, c'est d'essayer de maintenir ce focus sur le plaisir d'être ensemble et de réussir des choses très très compliquées.
Dans un monde où les mutations s'imposent, qu'elles soient environnementales ou sociétales, doit-on selon vous s'interroger de plus en plus régulièrement sur l'opportunité de se transformer ?
La vie, c'est le changement, c'est le mouvement perpétuel. Hein, donc si vous changez pas, c'est à peu près clair que vous allez pas très loin. Je crois même qu'une entreprise a besoin continuellement de croître pour pouvoir se maintenir en vie. Et c'est un exercice qui est à la fois douloureux, hein, puisque tout le monde prétend que le changement est nécessaire, mais en même temps, le changement, c'est terrifiant. Voilà, donc on a une relation très, très paradoxale au changement. On n'est pas dans le mouvement brownien du changement, en se disant il faut changer parce que c'est à la mode et qu'il faut le faire absolument. Il y a deux éléments forts sur lesquels on a beaucoup travaillé. Le premier, c'est qu'on sait où on va. Nous voulons être la banque de référence dans notre marché, qui est le marché de la banque privée. Et ça se décline en plein de paramètres qu'on a rendus le plus précis possible. Donc on sait très bien où on va. Et en même temps, on a une qualité particulière que je veux absolument conserver, qui est une agilité, une capacité à saisir les opportunités du moment, qui est hors norme. Voilà. Donc là, les taux ont très puissamment monté. Ça change une grande partie de la qualité du conseil. On a quasiment instantanément adapté l'offre et sorti de notre chapeau en un temps record des offres qui étaient absentes de l'étagère il y a encore 3 mois. J'aurais été incapable de faire ça dans mon environnement précédent. Et est-ce que ça nous déroute notre direction? Non. Parce que comme on sait exactement où on va, on veille continuellement à ce que ces opportunités soient recalées avec l'intention stratégique. Voilà. Donc tout ça génère du changement permanent. Évidemment, une nouvelle offre, c'est des nouveaux produits, c'est de nouvelles techniques, c'est de nouveaux processus. Ça oblige tout le monde à être sous tension continuellement pour s'adapter.
À la lumière de votre propre expérience, est-ce qu'il y aurait un conseil que vous donneriez à un dirigeant qui se lance dans un tel projet de transformation ?
C'est peut-être ce qui me frappe de plus en plus, moi, au cours de ma vie professionnelle, c'est que on est encombré de techniques, on est encombré de processus, on est encombré de règles, d'évaluation, de marché, de chiffres, de données. Mais que finalement, ce qui fait le supplément d'âme et le supplément de réussite, c'est tout le côté immatériel. C'est l'idée que se font la collectivité d'individus que vous réunissez, d'eux-mêmes dans cette collectivité et de plaisir à être dans cette communauté. Voilà, donc c'est très étonnant, en particulier dans la banque où on est encore une fois assommé de chiffres, de rationalité et d'obligation d'ailleurs d'être dans le résultat. Mais je trouve qu'au fil du temps, la composante fondamentale finalement, celle qui l'a sans doute regardé de la façon la plus légère, c'est cette composante totalement immatériel. Et donc cet exercice de mettre des mots sur une identité est un exercice qui est en réalité pas du tout accessoire, il est assez fondamental. Il y a une lecture qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années qui était le livre Sapiens d'Harari, hein, qui est un professeur d'histoire israélien. Et il porte une idée qui est très forte, c'est que l'humanité a triomphé non pas par l'intelligence, mais en se racontant des histoires. Voilà. Et je crois que c'est une idée très juste et qui se vit tous les jours dans une entreprise.